Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, les chefs d'orchestre.
Pour l'orchestre, son chef représente l'œuvre tout entière. Et comme le monde doit se résumer tout entier dans l'œuvre, c'est lui qui est le maître du monde. Elias Canetti.
Ans d'histoire. Agitant leurs baguettes devant des musiciens qui les regardent à peine, on se demande parfois à quoi servent les chefs d'orchestre. Et pourtant, dans les concerts, on ne regarde que. De Nikisch à Karajan et de Toscanini à Boulez, ils sont devenus des stars si populaires que leur nom a fini par éclipser ceux des compositeurs. Sauf quand ceux-ci dirigeaient eux-mêmes leur propre musique, comme le faisaient Beethoven, Berlioz, Wagner, ou, bien avant eux, et l'invention de la baguette, Lully, qui dirigeait les musiciens de Louis XIV avec tant de passion qu'il en est mort un jour de la gangrène, le pied transpercé par la canne dont il se servait pour battre la mesure.
Nous allons commencer.
Mais monsieur de Lully, sans le roi, vous n'y songez pas.
Le roi ne viendra pas.
Le Te Deum du roi.
Non, vous ne couperez pas. Pas la jambe d'Adolphin. Non,
monsieur, je vous conjure.
Lâchez-moi.
Si nous n'amputons pas, la gangrène va remonter jusqu'au cœur.
Le cœur. Prenez le cœur.
Et pas la jambe.
Pas la jambe de mon sang.
Non.
Robert Parianté, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était l'accident qui allait tuer Lully en 1687. C'était dangereux à l'époque d'être chef d'orchestre.
Très dangereux. Le chef qui dirigeait les violons du roi et qui se produisait donc à la cour était armé d'un énorme bâton très lourd avec lequel il donnait la cadence, il rythmait la cadence en tapant le sol.
Alors parmi les 70 chefs d'orchestre que vous citez dans votre livre publié aux éditions de La Martinière, vous ne citez Lully que comme un compositeur. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas encore de chef d'orchestre à l'époque, au XVIIIe ou au XVIIe siècle?
Le terme n'était pas utilisé. On utilisait soit le terme de maître de chapelle, Kapellmeister en allemand, qui donnait le rythme. Et c'est tout. Un chef d'orchestre, aujourd'hui, va beaucoup plus loin. Il donne le sentiment de l'œuvre. Il donne également un plan musical. Il a son aura personnelle. Il a sa manière de diriger. Et c'est pour ça que lorsqu'on écoute des disques, par exemple, on peut comparer des interprétations dont l'écart de temps, parfois, est de 10, 15, 20% par rapport à certains chefs. Oui.
Alors cela dit, il n'y avait pas de chef d'orchestre au XVIIIe, et pourtant les orchestres étaient dirigés, je crois. Il y avait généralement par des musiciens, il y avait ou le pianiste qui donnait la cadence, ou le premier violon qui, avec son archet, dirigeait les orchestres.
Bach et Handel, par exemple, dirigeaient les orchestres qui étaient sous leur responsabilité.
Mozart au piano, je crois.
Du clavier, qui était un clavecin, un continuo. Et qui leur permettait donc d'avoir la main mise sur 20, 25, parfois 30 musiciens auxquels se sont joints progressivement d'autres instrumentistes. Et puis il y avait les chœurs également. Il y avait donc une double direction. Mozart, pour sa part, a commencé par diriger en étant au violon.
Oui.
Et puis ensuite, il a demandé à avoir un clavecin pour pouvoir diriger, un piano forte pour pouvoir diriger les symphonies qu'il avait composées.
Alors, il ne s'appelle pas encore des chefs d'orchestre. Quand est-ce que le mot apparaît et pourquoi cette fonction apparaît-elle dans la musique, Robert Parianté?
Le terme de chef d'orchestre est apparu d'abord en Allemagne sous le nom de Kapellmeister, chef de chapelle, maître de chapelle. la chapelle du roi, la chapelle du prince. Par exemple, Haydn était maître de chapelle d'Esterhazy, prince d'Esterhazy. En France, on peut dire que ce terme a pris naissance au cours du XIXe siècle, avec un chef d'orchestre qui a d'ailleurs eu son heure de gloire même au-delà de nos frontières. C'était Habeneck, qui a créé la Société des concerts du Conservatoire et qui était considéré par Wagner lui-même comme le plus grand chef beethovenien de son époque.
Alors la raison, c'est surtout parce que les orchestres deviennent beaucoup plus importants. On passe d'une quarantaine de musiciens à plus de 100, je crois, 120, 130, même à l'époque de Wagner. Et il y a aussi l'apparition de la musique symphonique qui nécessite l'apparition du chef d'orchestre. Alors on écoute justement un des chefs les plus célèbres du XXe siècle parler de son orchestre, Herbert von Karajan, au micro de Jacques Chancel en 1978.
Mon orchestre, c'est mon bras prolongé. Je ne pense même pas, et ils le font. Je peux sans cesse observer les oiseaux quand ils volent. Et on se demande tant de fois si l'âme collective dans un vol d'oiseau, pourquoi? Et tout à coup, il tourne à gauche, à droite, avec une harmonie, personne ne se trompe. Et c'est exactement avec un orchestre. Un solo dans nos voix peut déclencher cette chose. Et tout le monde se sent ensemble, et alors c'est une union. Vous n'êtes plus devant 120 personnes. Je ne le vois même pas, parce que je le dirige toujours avec les yeux fermés. Mais je suis vis-à-vis d'un être. Un être seul.
C'était Karajan, vous n'êtes plus devant 120 personnes, mais devant un être seul. C'est ça, au fond, le rôle d'un chef d'orchestre, faire une œuvre collective avec des talents individuels, Robert Parienté.
Oui, Claudio Abbado, que j'ai longuement interviewé, qui m'a appris beaucoup de choses, m'a indiqué que pour lui, diriger un orchestre, c'était faire de la musique avec les instrumentistes. Il ne se considérait pas comme un musicien hors l'orchestre, il faisait partie de l'orchestre comme s'il dirigeait un petit quatuor ou un quintet de musique de chambre.
Alors avec le chef d'orchestre apparaît bien sûr la baguette. Comment est-ce qu'elle est apparue? Comment ça s'est passé?
On a d'abord utilisé toutes sortes d'instruments, notamment des parchemins que l'on avait roulés et qui formaient une sorte de flambeau donnant la cadence. Ensuite, on a eu ces grosses masses qu'on évoquait tout à l'heure pour Lully et qui ont été abandonnées par la suite parce que trop encombrantes. Et ensuite,
c'était vraiment des cadences de tambour major.
Une cadence, en fait. Oui. comme les tambours majeurs. Et puis, au XIXe siècle, sont apparues des baguettes assez lourdes, assez volumineuses, qui ont été peu à peu remplacées par des baguettes en bois ou en os, qui se sont affinées, dont la longueur s'est réduite également, et qui étaient, comme le dit Karajan, le prolongement de la main du musicien, du chef d'orchestre.
On dit souvent que c'est la baguette. C'était parce que quand le premier violon rythmait la cadence, au fond, on a transformé l'archet du violoniste.
Exactement.
Par la baguette.
Exactement. Mais il faut aussi penser qu'aujourd'hui, et de tout temps, il y a eu de grands chefs d'orchestre qui n'utilisaient pas de baguette et qui n'utilisent que leurs mains. Aujourd'hui, on peut citer Pierre Boulez, qui est pour moi le numéro un français de loin, et Nicolas Arnoncourt, qui lui aussi conduit à main nue.
Alors, le chef d'orchestre également cesse d'être un musicien, en tout cas de se confondre avec l'orchestre, c'est plus le pianiste, c'est plus le premier violon. Mais alors c'est souvent, en revanche, un compositeur. Berlioz disait qu'il ne supportait pas, au fond, que sa musique soit dirigée par d'autres que lui. Et on oublie que, en dehors du fait qu'il a écrit la Symphonie Fantastique, il était un grand chef d'orchestre, comme l'était Beethoven, comme l'était aussi Wagner ou Mahler.
Il était reconnu comme un grand chef d'orchestre, notamment en Grande-Bretagne, où il a dirigé fréquemment, en Allemagne. Il est allé en Russie également. Il a dirigé à Saint-Pétersbourg. Il a dirigé les plus grands orchestres du monde. Et il avait beaucoup de peine à trouver un orchestre disponible pour pouvoir diriger ses œuvres en France.
Vous êtes prié d'assister au concert donné le 18 mai en la salle du Conservatoire de Paris. Œuvre d'Hector Berlioz, dédiée à Harriet Smithson.
4 mesures avant les bois. 46, 47, 48, 49. Les violons, la ré fa, pop, 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 pop.
Bien, allez, on reprend. Monsieur, c'est vous qui amenez le thème principal, l'idée fixe. C'est le visage de la femme. C'est toute l'histoire, tout le drame. Bon, allez, on reprend. 46, 47, 48, 49.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les chefs d'orchestre.
Et c'était la symphonie fantastique, dirigée au XXe siècle, non plus bien sûr par Berlioz, mais par Marc Minkowski, que l'on retrouve aussi dans votre livre, Robert Parienté. La direction d'un orchestre, c'est quoi? Est-ce que c'est une technique qui s'apprend, ou est-ce qu'il y a autant de façons de diriger un orchestre qu'il y a de chefs d'orchestre?
Il y a la technique, mais il y a aussi le don. Il faut une oreille absolue, il faut une mémoire prodigieuse, il faut être capable de communiquer, donc l'aura du chef d'orchestre compte beaucoup, autant que la technique. La gestique est quelque chose qui donne une cadence, qui donne un tempo, mais sans la communication d'un sentiment, la direction d'orchestre ne serait pas suffisante.
En tout cas, au XIXe siècle, tout le monde n'est pas encore convaincu de l'utilité des chefs d'orchestre. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, au début du XIXe, le phénomène est encore récent. En 1835, encore, le compositeur allemand Robert Schumann trouve cette mode totalement ridicule. La direction d'orchestre n'est, dit-il, qu'une bouffonnerie. Alors, Schumann explique la présence des chefs que par leur vanité et leur suffisance. Qu'est-ce que le public a à faire de ces signes de tête, demande Robert Schumann, de ces grimaces et de ces regards courroucés, de ce violent mouvement des mains et des pieds? Alors, le chef d'orchestre est donc à peine né qu'on se moque déjà de lui. Voilà par exemple comment il est peint en 1840 par l'Encyclopédie morale du XIXe siècle. Là, vous allez voir, on a déjà la caricature du chef échevelé. Dans les moments décisifs de la symphonie, son front se rembrunit, ses cheveux se dressent, ses sourcils se hérissent, ses yeux flamboient, il se dresse, se rassied, se relève, et c'est tout haletant et tout couvert de sueur qu'il arrive au crescendo final. Alors, au-delà de la caricature, il est vrai que le chef d'orchestre du 19e se donne à fond, surtout lorsqu'il est aussi le compositeur. C'est le cas notamment d'Hector Berlioz. Sa maîtrise est telle qu'un jour, c'est le chef Charles Hallé qui rapporte l'anecdote, un jour à la fin d'une répétition, alors que l'orchestre est déjà parti, il se rend compte subitement qu'il a oublié de faire répéter l'ouverture de l'œuvre. Alors, il décide tout de même de la jouer le soir de la représentation. Ce fut un spectacle inoubliable, rapporte Charles Hallé. Berlioz veilla sur chacun des membres de l'énorme orchestre. Sa battue était si affirmée, ses indications avaient tant de clarté et de précision, que l'ouverture fut jouée sans aucun accroc et personne n'aurait pu se douter de l'absence de répétition. Mais Berlioz, même le grand Berlioz, a souvent des sueurs froides avec des orchestres qui ne sont pas toujours les meilleurs. Dans ses mémoires, il raconte d'ailleurs avec beaucoup d'humour l'arrivée du chef d'orchestre dans un petit orchestre à l'étranger. À quel labeur ingrat ne doit-il pas s'attendre, dit-il. Il a d'abord à subir le froid regard de tous ces musiciens. Que veut ce Français? Que ne reste-t-il chez lui? La répétition est enfin commencée et le chef s'inquiète de trous dans l'orchestre. La première clarinette est malade, lui crie-t-on. Le hautbois a une femme en couche, les trombones sont à la parade militaire. Viennent ensuite les erreurs de rythme, les fausses notes. Berlioz, au bout de 3 heures, est totalement découragé. Tout est désarticulé, dit-il, plat, bruyant, discordant, hideux. Et ce n'est que le 3e jour qu'il commence à respirer. Après tant de bégaiements, dit-il, enfin l'orchestre grandit, il marche, il parle, il devient un homme. Et la lumière se fait, l'art apparaît, la pensée brille, l'œuvre est comprise, et l'orchestre se lève, applaudissant le maître qu'ils avaient d'abord pris pour un fou ou un barbare.
Non, c'est pas aussi simple d'être chef d'orchestre au 19e comme au 20e. D'ailleurs, Robert Parienté, il y a une phrase qui m'a frappé, celle de Robert Schumann qui dit « Qu'est-ce que le public a à faire de ces signes de tête, de ces grimaces, de ces regards courroucés ?» Or, c'est assez curieux parce qu'au XIXe siècle, la musique classique et les chefs d'orchestre passionnent les foules. Il y a ce qu'on appelle, la musicomanie. Hein, et tout le monde vient de toutes les catégories sociales, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
Il y a une transition qui se produit à la fin du XVIIIe, début du XIXe, avec l'apparition de Beethoven, et qui transforme la musique qui jusque-là était réservée à un petit public qui était le public de la cour et des nobles en public de concert. Et c'est le concept de concert qui donne au chef d'orchestre l'importance qu'il a pu acquérir par la suite.
Et qui va en faire des vedettes. Il y a aussi les concerts populaires de Padeloup, de Lamoureux, de Colonne, et puis alors des chefs d'orchestre qui deviennent de véritables stars, même si on les a oubliés. Aujourd'hui, vous évoquez par exemple Nikisch. Alors ça, c'est un phénomène qui va encore s'accentuer au XXe siècle avec l'apparition du disque, bien sûr, qui permet aux chefs d'orchestre et à leur musique d'être connus bien au-delà des salles de concert, et puis de la radio qui va même créer, comme c'est le cas chez nous d'ailleurs aujourd'hui, ses propres orchestres.
Oui, le National a été créé en 1934. Le Philharmonique a vu sa naissance confirmée dans les années 50, et avec une grande réussite. Et je pense que l'audience de la musique en France a pu s'affirmer de plus en plus grâce à ces orchestres, qui étaient des orchestres permanents, dirigés également, et ça n'est pas le moindre détail qui compte, par des chefs également permanents. car bien souvent, on a affaire à certains orchestres de chefs de passage qui ne peuvent pas apporter à l'orchestre toute leur connaissance et tout leur talent, alors que le chef permanent, comme c'est le cas pour Mazur actuellement, ou Tchung pour les deux orchestres de la radio, leur présence permet de construire, de bâtir, de perfectionner et d'apporter à l'orchestre un niveau, et de donner à l'orchestre un niveau qu'il n'avait peut-être pas avant.
Alors c'est pas Radio France aujourd'hui, ou même la Radio Nationale des années 30, mais c'est dans cette archive Radio Paris, hein, qui, ça n'a rien à voir, qui annonçait l'arrivée donc à Paris d'un chef d'orchestre encore inconnu, mais qui n'avait pas le resté inconnu pendant longtemps, depuis longtemps, c'était en 1941.
Sur scène, le décor est planté, le vaisseau avec son mât central, la voile qui se gonfle sous le vent, les cordages, et au fond, le ciel où courent des nuages. Ici, au foyer du public, c'est l'orchestre qui répète sous la direction de M. Van Karajan. C'est un homme jeune, mince, brun, rasé, vif, qui dirige sa répétition sans défaillance, en faisant reprendre un même mouvement au besoin 7, 8 ou 10 fois, jusqu'à ce qu'il ait atteint le résultat voulu.
Karajan dirigeant Tristan Iseut à Paris en 1941 devant un parterre d'uniformes vert de gris. Karajan qui a commencé sous le régime nazi, il était même adhérent au parti nazi dès 1933, dès son arrivée au pouvoir.
On peut rappeler cette adhérence à une politique qui allait faire de tels ravages. On a passé l'éponge depuis, puisqu'il a réussi à faire de l'Orchestre Philharmonique de Berlin le plus grand orchestre du monde, après Furtwängler, il est difficile d'occulter totalement ce passage, dû probablement à une volonté de puissance, à une ambition effrénée.
Il y a un autre homme, vous l'avez cité d'ailleurs, Robert Perrianté, qui a eu des problèmes, alors que lui était, il est resté en Allemagne bien sûr, mais je crois qu'il n'aimait pas du tout les nazis, c'était Furtwängler, qui était aussi un des plus grands du siècle.
Furtwängler a renoncé à toutes les charges qu'il avait au niveau des orchestres et des institutions du Troisième Reich, et il n'a jamais adhéré au parti nazi. Il a commis l'erreur de rester en Allemagne alors qu'il aurait pu partir notamment à New York où Toscanini l'avait appelé à prendre sa succession. Il est resté en Allemagne parce qu'il considérait que la musique était le seul moyen de conférer à l'Allemagne toute l'importance qu'elle pouvait avoir dans un pays comme celui où il était né.
Alors, autre star célèbre pour son mauvais caractère, Toscanini, que l'on écoute ici pendant une répétition en
1946. Stai del tempo giusto, ram, plam, pam, rip, via. Lam, li, shom, li, lai, lam, li, tam, li, la, 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 li, lam, tam, tam, li, tam, la, li, tam, li, piano, trombone, trompetto, la, 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 fisicato, lam,
et Et c'était Toscanini au travail en 1946, le dieu de son époque, dites-vous, Robert Parianté. Vous avez même pu dire Jupiter. Il tenait, on a entendu, oui, contre ses musiciens. C'est extraordinaire, ça.
C'était un personnage qui était extrêmement exigeant et qui malmenait parfois ses musiciens au point que lorsqu'il quittait la scène et qu'il retrouvait ses proches lui reprochaient d'avoir été un peu dur. Et il disait, mais j'ai vraiment dit ça, j'ai vraiment insulté un tel. Et il était tout étonné d'avoir pu avoir une telle conduite.
Il a un parcours étonnant. Il est né en Argentine. Je sais pas. Je crois qu'il jouait dans l'espèce de bastringue au début. Non,
il a d'abord débuté comme violoncelliste. Il a joué dans les plus grands orchestres italiens. Il a fait une tournée en Amérique du Sud lorsqu'il avait 22 ou 23 ans. Et il a remplacé un chef d'orchestre local qui était défaillant ou dont les musiciens ne voulaient plus. Et c'est là qu'il s'est affirmé. Et à partir de ce moment-là, on a fait appel à lui dans les grands orchestres transalpins quand il est revenu dans son pays.
À la Scala, qu'il
est. Et à la Scala, bien entendu. Et il est devenu une star de l'époque, en étant tout de même à l'opposé de ce que l'on peut peut-être reprocher à Furtwängler, et encore plus à Karajan, en refusant de jouer pour le régime fasciste, qui imposait que l'on jouât avant tout concert l'hymne fasciste, qu'on apposa des photographies de Mussolini dans les salles de concert. Il s'y est refusé et il a quitté la Scala pour ne plus y revenir tant que le régime fasciste a perduré.
Alors il est mort en 1957, Furtwängler en 54, Karajan en 89. On a l'impression au fond que depuis leur disparition, il y a toujours bien sûr de grands chefs d'orchestre, mais il n'y a plus des monstres sacrés comme ceux dont on vient de parler.
Il y a probablement moins de monstres sacrés, mais il y a très certainement davantage de très grands chefs, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Quelquefois, ce sont des personnages très discrets, comme par exemple l'Italien Carlo Maria Giulini, dont on vient de célébrer le 90e anniversaire, ou Kurt Sanderlin, qui lui a 92 ans, et qui sont des musiciens qui ont toujours eu le plus grand respect à la fois pour leurs propres musiciens, pour les œuvres qu'ils interprétaient et pour le public. Ce ne sont pas des comédiens, ce ne sont pas des gens qui s'agitent inutilement, au contraire. On peut citer également Nicolas Arnoncourt, on peut citer Claudio Abbado, Pierre Boulez lui aussi, que si on assiste à une répétition de Pierre Boulez, on est frappé par, je dirais, la brièveté de ses gestes et le minimum de... je dirais, de bruit qu'il peut faire autour de lui. On a l'impression qu'au contraire, pour certains chefs, et je reviens à Giulini, on peut ajouter aussi Bernard Haitink, le grand chef hollandais, ce sont des gens très discrets qui ne se commettent pas en gestes inutiles.
Oui, mais c'est les noms que vous venez de citer, Robert Parianté, pardonnez-moi, mais ils ne sont pas connus du grand public, comme c'était le cas au 19e siècle, où tous les chefs d'orchestre étaient archi-connus, étaient des stars, ou au début du 20e. À quoi ça tient? Est-ce que ce n'est pas un peu dû aussi à la baisse de fréquentation, je suppose, des concerts, ou tout simplement parce que je n'y comprends rien moi-même, ou je n'y connais rien?
Il y a deux facteurs, à mon sens. Il y a le disque, qui aujourd'hui donne sa place à un très grand nombre de chefs, avec des rééditions énormes qui concernent notamment les chefs du passé. On peut aujourd'hui écouter Toscanini, qui a gardé sa célébrité de naguère ou d'autrefois, grâce au disque. Et puis il y a donc une concurrence qui est beaucoup plus grande. Et puis il y a aussi le fait que les chefs restent attachés beaucoup plus longtemps que par le passé à leur propre orchestre. Par exemple, prenons le cas d'Abbado, il est resté 12 ans ou 14 ans à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Rattel, qui a pris sa succession, entend faire la même chose. Vous avez Riccardo Muti, qui est à la Scala depuis plus d'une décennie. Donc ces chefs, même s'ils sont parfois itinérants, même s'ils vont diriger ailleurs, sont très célèbres dans leur pays, un peu moins à l'étranger.
Ces chefs avec un E aussi parfois, parce qu'on oublie que dans ce milieu très macho, il y a des femmes qui percent de plus en plus. Il y a Claire Gibault, il y a Nadia Boulanger, qui sont devenues célèbres, en tout cas dans le monde de la musique.
Nadia Boulanger, française bien sûr, a été la première chef qui a dirigé un orchestre américain, notamment Boston et New York, avant la guerre. Et aujourd'hui, on peut citer parmi les grands chefs confirmés pour le baroque, Emmanuel Haïm, dont la célébrité est probablement plus grande en Grande-Bretagne qu'en France.
Est-ce qu'on s'en souviendra dans 100 ans? Parce que, au fond, on a l'impression qu'après leur disparition, qu'est-ce qui reste en définitive, contrairement à ce que j'ai dit au début dans l'introduction, c'est plutôt les compositeurs. Par exemple, de Berlioz, on se souvient de la Symphonie Fantastique, et pas du tout, évidemment, parce qu'on n'a pas d'enregistrement, pas du tout du fait qu'il était un grand chef d'orchestre aussi.
C'est le cas aussi de Gustav Mahler, dont on sait qu'il fut un grand compositeur, mais dont on ignore le plus souvent qu'il a dirigé pendant plus de 10 ans l'opéra de Vienne et de très nombreux orchestres à l'étranger.
Merci Robert Parienté. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de La Symphonie des Chefs, un livre d'entretien avec 70 grands maestros et qui est publié par les éditions de La Martinière en collaboration avec France Inter et France Musique. À lire également Ni Empereur ni Roi, Chef d'orchestre de Georges Liébert, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Roi danse, un film de Gérard Corbiot distribué en DVD par France Télévisions, et de La Vie de Berlioz, un téléfilm de Jacques Tréboutat avec Daniel Besquiche, qu'on a peut-être reconnu dans le rôle de Berlioz. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benjamin de la Gâtinais et Patrick Henry, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Destacan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.